Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Stéphane Carpentier.
Et à 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe en ce 8 mai. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bientôt, plus de couvre-feu ni de limitation pour les fêtes de famille. Ça se passe en Allemagne.
Effectivement, et surtout, ça ne concerne que les personnes vaccinées. Le gouvernement d'Angela Merkel a adopté une ordonnance assouplissant les restrictions, mais uniquement donc pour les personnes ayant reçu 2 doses. Ces dernières vont voir leur quotidien complètement bouleversé. Pour RTL, Samuel Goldschmidt s'est rendu à Sarrebruck, juste à la frontière de la Moselle.
Être vacciné avec 2 doses, comme Suzanne, présentera une réelle différence dans la vie quotidienne.
Je n'aurai plus besoin de respecter le couvre-feu le soir. Je peux voir plusieurs familles chez moi, sous condition qu'ils sont vaccinés aussi, ou qui sont guéris du Covid. Et je peux aller chez le coiffeur sans test négatif avec mon certificat de vaccination.
Une différence de traitement qui chiffonne les non-vaccinés, eux qui doivent patienter encore.
Is it not too young?
Moi, je suis trop jeune. Évidemment qu'il y a débat ici. On a même inventé un mot, la vaccin jalousie. Le fait d'envier quelqu'un qui a déjà eu ses 2 doses parce qu'il aura le droit de faire bien plus de choses. Après, comme la plupart des magasins, des cinémas, des musées sont encore fermés, ce n'est pas forcément très intéressant. Ça n'aura de charme que si tout rouvre.
Ce jeune retraité n'a qu'une dose, lui va donc prendre son mal en patience.
Ça pourrait être mieux, mais tout pourrait être mieux depuis un an. Les autorités font du mieux qu'elles peuvent, je suppose. On va donc obéir aux règles. On est allemand après tout.
Le reportage de Samuel Goldschmidt pour RTL. En Belgique, c'est aujourd'hui la réouverture des terrasses, sachant que les Français frontaliers vont pouvoir en profiter, les Vénards. Le déconfinement, les conséquences économiques de la pandémie ou encore la vaccination, autant de sujets au menu du sommet de Porto. Les 27 sont réunis en ce moment même au Portugal pour approuver un plan d'action présenté début mars, Vincent Derosier.
Oui, un dîner hier soir et une dernière réunion de travail ce matin pour tenter de rendre l'Europe un peu plus sociale et moins austère. Les dirigeants des 27 sont encore traumatisés par la crise de 2008, les années d'austérité, l'effondrement de la Grèce et la défiance des peuples qui s'en est suivie. Et la crainte de plusieurs pays aujourd'hui, c'est qu'une révolte sociale de grande ampleur éclate après la crise sanitaire. Alors depuis qu'il est à Porto hier, Emmanuel Macron tente de convaincre ses homologues qu'il faut lutter davantage contre le chômage, qu'il faut plus de protection aussi pour les salariés, voire même un salaire minimum. Mais les dirigeants des 27 devraient au moins s'entendre sur des objectifs plus consensuels, augmenter le taux d'emploi à près de 80% d'ici 2030, assurer une formation professionnelle à plus d'un adulte sur deux chaque année et faire sortir 15 millions de personnes de la pauvreté. Une bataille qu'Emmanuel Macron pourra mener activement en janvier prochain lorsqu'il prendra la présidence de l'Union européenne.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Hier, Emmanuel Macron a profité de ce sommet pour demander solennellement au Royaume-Uni d'arrêter de bloquer l'exportation de vaccins, mais aussi les produits qui servent à les fabriquer.
Toujours parmi les conséquences de la pandémie, Agnès, et les petits clubs sportifs, voire les associations qui ont bien du mal à sortir la tête de l'eau côté finances.
Comment rembourser les familles qui avaient inscrit leurs enfants en début d'année et qui ont vu les cours annulés? Certains ont des difficultés à pouvoir repayer une inscription, une licence, et c'est bien pour ça qu'un chèque de 50 euros devrait être bientôt versé aux ménages les plus en difficulté pour l'achat d'une licence. Le Pass Sport, c'est son nom. Une façon d'aider les familles, mais aussi les clubs. En fait, c'est une pierre deux coups. Exemple au club de foot de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Avec vous, Dimitri Ramelot.
Oui, plus de 30% des entraînements supprimés depuis la rentrée de septembre, mais des frais fixes qu'il a fallu honorer, comme l'explique Rodolphe Valentini, doyen du comité directeur.
On s'est acquitté des frais d'engagement des équipes, des frais de licence auprès de la Ligue et du district. Au moins 12 000 euros. On a quand même indemnisé les éducateurs au niveau des non-recettes. On a quand même fait un match de Coupe de France contre Chenon qui aurait pu nous ramener dans les caisses quelques milliers d'euros.
Et la liste ne s'arrête pas là. Frais d'arbitrage pour les quelques matchs disputés, amende à payer pour les cartons jaunes et cartons rouges, sans compter le gel hydroalcoolique. Impossible donc pour le directeur sportif Roland Sirot de rembourser même partiellement les 400 membres de leur cotisation.
Le remboursement n'est
pas la meilleure des solutions. Ce que l'on pense, c'est plutôt sur les adhésions de la saison prochaine, donc une réduction de 50% à voir, hein, à discuter. Et puis, offrir un pack équipement, je pense, à tous les licenciés, ce qui valoriserait également un petit peu le club.
Un bon moyen aussi de fidéliser les adhérents, et ceux qui choisiraient de ne pas re-signer pourraient recevoir un reçu fiscal leur permettant de laisser le montant de leur cotisation sous forme de don.
Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL sur ce pass sport. On passe à l'actualité à l'étranger. Ça n'était plus arrivé depuis 2 ans et il est extrêmement rare que des affrontements aient lieu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Hier, plus de 180 personnes ont été blessées. La tension est vive depuis une semaine dans le quartier Sheikh Jarrah. Des manifestations ont lieu tous les soirs, en fait, depuis une semaine, contre une possible expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens. Les débris d'une fusée chinoise devraient bien tomber sur Terre ce week-end, la nuit prochaine, mais selon les autorités de Pékin, cela représente un danger extrêmement faible. On ne sait pas encore où atterriront ces morceaux d'un étage de fusée qui pèse quand même 2 tonnes.
Quand même, 8h05, vous restez bien là, Agnès Bonfi, on revient dans un instant pour vous informer avec un retour sur la première semaine du procès de Nordal Lelandais. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
À 8h07, la suite du journal avec Agnès Bonfillon aux assises de Chambéry. Le procès de Nordal Lelandais reprendra ce lundi.
Oui, jugé depuis une semaine pour le meurtre d'Arthur Noyer. Celui qui est également accusé d'avoir tué la petite Maëlys n'apporte guère de réponse sur le mobile de son crime. Il ne vacille pas malgré les nombreuses demandes de la famille de la victime, Anne Le Hénaff.
Calme, les mains croisées devant lui, le Landais a systématiquement répété sa version. Il a pris Arthur en stop, l'a déposé à sa demande sur le parking d'une petite ville. Le caporal lui a donné plusieurs coups de poing pour une histoire de portable. Ils se sont battus. C'est un accident. Arthur ne connaissait personne dans cette ville. Il avait beaucoup trop bu ce soir-là pour pouvoir se battre. Mais le Landais tient bon. Il a pourtant vacillé à plusieurs reprises cette semaine. Face à la grand-mère d'Arthur, regardez-moi bien dans les yeux, vous nous devez la vérité. Face à une amie proche avec qui il a fait la fête 36 heures après le drame. Dis-leur ce qui s'est passé, Nordal. Tu le sais au fond de toi. Tu ne peux pas dire que c'est un accident. Face à sa propre mère, je te demande de dire la vérité pour les parents d'Arthur, pour tout le monde. À chaque fois, l'accusé, en larmes, a fait oui de la tête. Bien sûr, je vais le faire. Hier, d'une voix blanche, le regard froid, il a persisté. J'ai jamais cherché à tuer Arthur. Ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. En face de lui, le regard pétillant de sa victime sur la grande photo apportée par ses parents.
Compte rendu d'audience d'Anne Le Hénaff pour RTL. À Avignon, toujours aucune trace du meurtrier d'un policier. Mardi, les recherches se concentrent sur 2 individus présents au moment du drame. Concernant l'assassinat d'une mère de famille à Mérignac, en Gironde, mardi également, elle a été brûlée vive par son mari. Éric Dupond-Moretti l'affirme : « Je n'aurai pas la main qui tremble », avec les nombreux dysfonctionnements dans le suivi judiciaire de cet homme déjà condamné et emprisonné pour violence conjugale. Le garde des Sceaux compte rappeler au magistrat que les bracelets anti-rapprochement, je cite, n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Le ministre de la Justice, qui par ailleurs officialise sa candidature dans les Hauts-de-France, il ne sera pas tête de liste, mais défendra les couleurs de La République En Marche au régional face à Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais.
On reste dans le Nord pour parler ballon rond avec la victoire claire et nette de Lille hier soir face à Lens, 3-0.
Ils en ont dans le réservoir, les Dogs. Ils tracent leur route vers le titre de champion de France, mais il reste encore 2 journées de Ligue 1. Concernant la 36e journée, la suite samedi avec 2 matchs au programme, Lyon-Lorient à 17h et avant cela, Nantes-Bordeaux, ce sera à 13h. 2 clubs qui ont dominé le foot français dans les années 80 et qui ne sont pas au mieux de leur forme actuellement, Philippe Audouin.
14 titres de champion cumulés et une rivalité féroce dans les années 80 au sommet du foot français. Aujourd'hui, Nantes et Bordeaux en sont réduits à survivre. La chute n'en est que plus douloureuse. L'entraîneur nantais, Antoine Comboiré.
Ça fait de la peine, ça fait pitié même. Après, quand vous voyez les budgets de ces deux clubs-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop lutter comme à l'époque pour être champion, pour avoir des places européennes. Donc c'est triste.
Triste, mais logique, selon l'entraîneur girondin Jean-Louis Gasset.
On a vu des gens qui sont descendus, c'était des grands clubs. Il y en a même qui sont encore en deuxième division. Le jour où vous ne faites pas bien les choses, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, vous êtes sanctionné. Il faut bien travailler dans la vie.
À Nantes comme à Bordeaux, l'incompétence de la gouvernance est criante et la peur de mourir ravive à la fois la contestation et le soutien populaire. Mais même en cas de maintien en Ligue 1 cette saison, l'avenir de ces deux institutions est très incertain.
Philippe Audouin pour RTL. Le PSG, lui, jouera demain à Rennes. L'occasion de vous dire que, selon nos confrères de l'équipe, Neymar devrait prolonger son contrat avec le club parisien jusqu'en 2026. Il doit même signer aujourd'hui. L'actualité du ballon rond, il en sera bien sûr question sur notre antenne. On refait le match entre 18h30 et 20h avec Christian Olivier. Une émission suivie de RTL Foot entre 20h et 23h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. En cyclisme, ce samedi, c'est le coup d'envoi du Giro, 104e édition du Tour d'Italie qui débute tout à l'heure à Turin par un contre-la-montre. Et c'est une grande première pour un certain Romain Bardet.
On reste sur la route en deux roues, mais en moto, Agnès.
Oui, grâce à la fin de l'attestation pour aller au-delà de 10 km, eh bien, ce matin à 11h, une vingtaine de participants s'élancent pour un premier Tour de France à moto. Il n'est pas question de compétition, non, mais l'objectif est de découvrir la France à travers des itinéraires insolites, Frédéric Veil.
Les motos sont prêtes, les motards aussi. Avec la levée des mesures sanitaires, ils vont enfin pouvoir s'élancer. Éric Massier-Dubier est l'organisateur de ce Tour de France.
Ouais, l'idée c'était de faire un vrai Tour de France. On va essayer de montrer et promouvoir notre pays avec la vision d'un casque de moto. Donc on organise tout, on a l'assistance, on évite tous les hôtels de chaîne. On prend que des hôtels à gestion familiale, des sites d'hébergement insolites. Nous, on a toujours pensé que le voyage commence quand la route s'arrête. Donc on roule pas mal avec des trails. Donc c'est des motos qui sont faites pour se rouler hors goudron. Donc on a répertorié certaines traces sur des chemins et pistes autorisées, cadastrées, etc. pour aller vadrouiller un peu dans les forêts, dans les montagnes, dans les campagnes. Les gens qui viennent, c'est des gens lambda, des motards. Il y a des gens qui prennent quelques jours de vacances et puis ils veulent absolument rouler, quoi. Ils n'en peuvent plus.
5500 km sont au programme pour cette vingtaine de chanceux qui va découvrir la France à deux roues.
Le reportage de Frédéric Veil pour RTL. Je vous vois tellement bien en moto, Stéphane, ouais, avec ouais. Valérie et dans un sidecar à côté.
Ah oui, ça serait bien. Bouge pas, bouge pas.
On s'arrête, j'ai faim, j'ai soif.
Merci Agnès Bonfillon. L'actualité revient tout à l'heure, 9h avec vous. Et c'est à disposition quand vous le souhaitez. Vous allez directement sur l'appli RTL. On parlait foot avec Agnès. On va garder le pied sur le ballon car tous les week-ends, il se jette à l'eau et il parie sur l'actualité du football.